Et c'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. On défile ce matin festival de ténors au bureau politique des LR pour qu'une primaire départage les candidats à la présidentielle à droite, envers et contre Xavier Bertrand. À Cannes, festival du cinéma, premier défilé sur tapis rouge. Ce soir, on y sera. Et à l'Elysée, défilé des syndicats et du patronat qui diront tout le mal qu'ils pensent d'une réforme des retraites avant la fin du quinquennat. En studio, en revanche, un seul invité à 8h20. Oui. Un des candidats à la primaire Europe Écologie Les Verts.
Oui, c'est le maire EELV de Grenoble, Éric Piolle, qui par ailleurs publie aux éditions Les Liens qui Libèrent un court texte intitulé « De l'espoir !» point d'exclamation, sous-titre « Pour une république écologique ». Écologique, il dialoguera avec vous tout à l'heure au standard d'Inter 01 45 24 7000.
À la une aussi les résultats du bac, tout à l'heure pas trop de stress puisque les candidats connaissent déjà 80% de leurs notes. Cédric Jubilard, dont les avocats vont demander la remise en liberté. Aujourd'hui, son dossier est vide. Voilà ce qu'ils disent. Et puis, on terminera par un défilé de coureurs. 10e étape du Tour de France entre Albertville et Valence. Le Tour qui est aussi un défilé gastronomique. C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Jérôme Cadet.
France Inter.
Même Laurent Wauquiez fera le déplacement, lui qui n'avait plus remis les pieds au bureau politique de LR depuis 2 ans. Il sera bien là, au siège du parti, à 17h, tribune en main, co-signé avec Valérie Pécresse, Bruno Retailleau et Hervé Morin pour une primaire de la droite et du centre, là où Xavier Bertrand veut s'imposer naturellement à la faveur des sondages. Ce sera ça, le sujet brûlant de la réunion de ce soir. Comment désigner un champion ou une championne pour la présidentielle l'an prochain? Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
Et oui, comment, si ce n'est avec une primaire?
Et oui, et de plus en plus de monde à droite semble être en train de se rallier à cette idée. Même Christian Jacob, le patron du parti Les Républicains, commence à osciller et à se dire qu'il sera finalement difficile d'y échapper. Son idée d'un départage en s'appuyant sur 2 séries de très larges sondages, cette idée-là commence à être mise de côté et devrait très rapidement maintenant d'ailleurs être abandonnée. Donc tout pousse vers cette primaire, même si le seul mot de primaire affole une partie de la droite échaudée par le scénario qu'elle a connu en 2016. Une primaire probablement ouverte à nouveau, à la droite bien sûr et au centre, à laquelle pourraient participer tous leurs sympathisants. C'est ce que réclament ce matin, vous l'avez dit, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse notamment. Et c'est aussi ce que va plaider Jean Leonetti à la réunion de ce soir, le maire d'Antibes qui s'est vu confier la mission de trouver une solution. On l'écoute.
En politique, comme dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Et donc, le sondage d'aujourd'hui ne peut pas être un élément qui dit il y a un candidat qui écrase le match, il y a un candidat consensuel. Je serais très heureux qu'il y ait un candidat naturel et consensuel. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ça n'est ni Xavier Bertrand, ni un autre.
Eh ben Xavier Bertrand, justement, dans tout ça, lui qui ne veut pas en entendre parler de cette primaire.
Ah non, effectivement, Xavier Bertrand refuse catégoriquement d'y participer. Il l'a déjà dit, il ne s'en est jamais caché. En fait, il va tenter de continuer à montrer qu'il a de l'avance dans les sondages et que c'est bel et bien lui qui est en train de s'imposer. Seulement, est-ce que cela va marcher? Ou sera-t-il finalement obligé de rallier ce processus? Première grosse difficulté, en tout cas pour celui qui a été largement réélu à la tête des Hauts-de-France.
Karine Bécard, merci. Et voici d'autres têtes d'affiche à présent, des vrais directeurs. Cannes, où s'ouvrira ce soir le 74e Festival du cinéma Cannes. Au mois de juillet, on aura tout vu, comme dirait Christine Masson et Laurent Delmas le samedi sur France Inter. Et vous allez tout voir, effectivement, Corinne Pélissier, bonjour.
Bonjour Florence.
Après une année blanche, tout le monde a très envie de cinéma, Corinne, et ça tombe bien, puisqu'à Cannes aussi, c'est les vacances ce soir.
Exactement, sous des températures qui devraient flirter tous les jours autour des 30 degrés, ça va sentir bon le coconut au bord du tapis rouge, avec d'un côté les festivaliers, de l'autre les vacanciers, les touristes, un peu curieux sans doute de découvrir ce grand Barnum et son défilé de vedettes, Catherine Deneuve, Matt Damon, Jean Dujardin, Jodie Foster, Mylène Farmer parmi les plus attendus, un festival en mode claquette, chaussettes et smoking, avec des rendez-vous populaires et gratuits sur la plage, l'avant-première du blockbuster Fast and Furious, une compétition plus relevée que jamais, 24 grands noms du cinéma en lice pour une palme d'or.
Et dès ce soir, le film d'ouverture signé Léo Scarrax, Annette, en compétition officielle avec Marion Cotillard et Adam Driver.
Il sera évidemment scruté comme chacun des films trop rares du réalisateur. Annette est son 6e long métrage en 37 ans de cinéma. Un film en forme d'opéra rock, écrit et composé par le duo américain des Sparks, avec d'emblée cette scène d'ouverture en plan séquence qui vous renverse dans une ville de Los Angeles crépusculaire et stylisée. Au casting, Marion Cotillard en chanteuse lyrique, amoureuse d'Adam Driver dans le rôle d'un comédien de stand-up, et leur petite fille Annette au pouvoir bien mystérieux. Une histoire tout sauf consensuelle, remplie de trouvailles, de métaphores, de chansons, qui offre ici au comédien américain son rôle le plus intense.
Il est pour moi un des meilleurs réalisateurs avec lesquels j'ai eu la chance de travailler. J'ai adoré faire ce film avec lui. Il est très précis dans ses choix, avec un sens unique de la chorégraphie. Et très vite, Léos et même les Parks nous ont expliqué à quel point la musique était importante au niveau de l'intention. On aurait presque oublié qu'on chantait. Je remplirais évidemment, si c'était à refaire, les yeux fermés.
Avec son univers onirique, sa grande puissance formelle, ses références au 7e art, Annette est le film parfait des retrouvailles cannoises. Un grand cri d'amour au public et au cinéma.
Corinne Pellissier en direct du studio cannois de France Inter. On attend aussi les films de François Ozon, Jacques Audiard, Nanni Moretti, Asghar Farhadi ou Sean Penn, entre autres. Loin, loin de l'univers de Richard Donner, réalisateur américain mort cette nuit à 91 ans. On lui doit le premier Superman, les Goonies ou L'Arme Fatale avec Mel Gibson.
France Inter, il est 8h07, peut-être sur la table du Conseil des ministres dès la semaine prochaine.
La vaccination obligatoire des soignants entre les mains du gouvernement, qui attend un consensus avant de trancher. Tous les partis politiques doivent se prononcer aujourd'hui. Vaccinés pour tenter de passer au travers d'une quatrième vague en Espagne, les contaminations explosent de nouveau. 32 000 cas hier et un taux d'incidence massif chez les jeunes, 600 contaminés pour 100 000. L'Andalousie et la Catalogne envisagent de rétablir des restrictions. Et c'est tout le contraire en Angleterre, où les dernières mesures sanitaires devraient être levées dans moins de 15 jours, malgré la nouvelle épidémie de Delta qui pourrait toucher 50 000 personnes par jour d'ici là, admet Boris Johnson. Covid, variant, vaccin, il en sera question ce matin à l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit les leaders syndicaux et patronaux avec un sujet explosif, celui des retraites, avec pourquoi pas un recul de l'âge de départ à 64 ans. On ignore si le président remettra la réforme à l'ouvrage avant la fin du quinquennat, ce qui serait une très mauvaise idée, lui diront tous ses invités. Commençons d'abord par s'occuper de l'emploi des seniors, appuiera la CGT. Catherine Perret est la spécialiste retraite de la centrale.
C'est incompréhensible. Plus d'un Français sur deux n'est plus en emploi à 60 ans. La plupart des gens, ils sont soit au chômage, et puis il y a plein de gens aussi qui sont plus en capacité de travailler parce qu'ils ont subi des conditions de travail trop dures. Donc en fait, ça ne fait pas travailler les gens plus longtemps de retarder l'âge légal de la retraite. Ça agit sur des économies qu'on fait sur le niveau des pensions. C'est-à-dire que les gens, ils partent avec des pensions amputées. C'est ça qu'on veut en France. Il y a d'autres solutions. Il faut augmenter les recettes. Et pour augmenter les recettes, il faut mettre en place une politique qui crée plus d'emplois. Parce que plus d'emplois, c'est plus de cotisations sociales, c'est plus de recettes pour les retraites. C'est sûrement pas le moment de à nouveau demander aux Français de payer la crise.
Catherine Perret de la CGT avec Hélène Filly, mise en examen pour avoir allégé les impôts de Bernard Tapie, l'ancien ministre du budget Éric Woerth, soupçonné de concussion par la Cour de justice de la République, c'est-à-dire d'avoir accordé un avantage fiscal indu sur les 403 millions d'euros perçus par Tapie après l'arbitrage de son litige avec le Crédit Lyonnais en 2008, arbitrage annulé par la suite.
Il est 8h09, en prison depuis deux semaines, Florence Cédric Jubilard demande sa remise en liberté.
Ses avocats la défendront aujourd'hui. Aujourd'hui, au tribunal de Toulouse, Cédric Jubilard est mis en examen pour le meurtre de sa femme Delphine, qui a disparu près d'Albi au mois de décembre, mais il clame son innocence, Delphine Gauthier.
Selon ses avocats, c'est un homme combatif et déterminé qui va se présenter tout à l'heure devant la justice. Pendant ses 48 heures de garde à vue, Cédric Jubilard n'a jamais varié. « Je n'ai pas tué ma femme », a-t-il martelé d'abord au gendarme qui le pressait d'avouer, puis à sa mère, avec laquelle il a été confronté. Lors d'une conférence de presse le 18 juin, le procureur de Toulouse s'était évertué à faire la liste des indices qui avaient conduit à la mise en examen de Cédric Jubilard. Un homme, disait-il, qui n'acceptait pas l'idée d'un divorce, qui savait que Delphine avait un amant, un homme brutal, agressif. Mais où sont les indices graves et concordants, demande Emmanuelle Franck, l'une des avocates de Cédric Jubilard.
Il n'y a absolument aucun élément qui ne permette de rattacher Cédric Jubilard à une scène de crime pour la simple et bonne raison de déjà, et je dirais c'est le préalable, qu'il n'y a pas de scène de crime. Donc c'est pas juste qu'on n'a pas retrouvé le corps de Delphine Jubilard, c'est qu'il n'y a pas de scène de crime. Vous n'avez absolument aucune trace de sang nulle part, aucune trace de nettoyage, aucune trace de lutte, aucune trace de transport. Vous n'avez absolument aucun élément confondant dans ce dossier.
Pour la défense de Cédric Jubilard, il faut continuer d'explorer d'autres pistes, car pour eux, ce dossier n'est rien d'autre que la fabrication d'un coupable.
Et puis ces jours de réquisitoire au procès de l'affaire Troidec, après 10 jours de débats éprouvants, l'avocat général dira quelle peine il demande à l'encontre d'Hubert Caouissin et de Lydie Troidec. Les hurlements de joie et les larmes seront sans doute un peu factices. Cette année, les résultats du bac, à l'image du bac lui-même, n'auront décidément pas la saveur habituelle. Les 750 000 candidats qui seront aujourd'hui, s'ils sont reçus, en ont déjà une petite idée, à vrai dire, puisque le contrôle continu a pris presque toute la place. Donc pas de stress pour Jeanne, par exemple, qu'a rencontré Sonia Princey.
Comme tous les candidats, Jeanne a fait ses calculs. Elle connaît déjà 82% de sa note de bac et même 90% avec la philosophie en contrôle continu. Seul véritable inconnu, sa note de grand oral, qui compte pour les 10% restants.
Il y a un site internet pour calculer les notes, et donc on rentre juste les notes de la terminale et certaines de première. Ça fait une moyenne et ça donne le résultat. Là, pour l'instant, j'ai 14 et quelques. 14,24, je crois. Je pourrais décrocher la mention bien si j'avais même seulement 10 sur 20 au grand oral.
Pas de suspense, moins de stress, Jeanne préfère. Mais pas question pour autant de se priver du petit moment traditionnel d'euphorie collective en découvrant les résultats.
On peut les regarder en ligne, mais moi je vais aller au lycée directement parce que mon lycée, ils ouvrent à 10h pour nous accueillir et montrer les résultats sur des grandes pancartes. Donc je vais aller au lycée pour voir, pour être en vrai, quoi, et pas juste regarder sur mon ordinateur. Je pense que ça va être assez émouvant. En plus, ce sera la dernière fois qu'on sera tous au lycée. Non, je pense que ça va être sympa.
Les élèves entre 8 et 10 sur 20 de moyenne ont un peu plus d'incertitude et devront peut-être passer les épreuves de rattrapage prévues dans les lycées à partir de demain.
Voilà, les résultats seront publiés à partir de 8h30 ce matin, à des horaires différents selon les académies. À l'étranger, encore un enlèvement massif de lycéens au Nigeria. 140 élèves kidnappés dans le nord-ouest du pays à échanger contre rançon, sans doute. Un millier d'enfants, d'adolescents et d'étudiants ont été enlevés depuis début décembre au Nigeria. Et puis le pire incendie jamais connu à Chypre est entièrement sous contrôle. Il a ravagé des dizaines de propriétés dans 10 localités de l'île et provoqué la mort de 4 personnes. Un sujet délicat à présent, abordé pour la première fois en longueur par le comité interministériel du handicap. Il s'agit de la sexualité des personnes handicapées. C'est un chapitre entier du rapport publié hier à Alice Cachaner, parce que c'est une question de santé publique.
Disposer de son corps, connaître ses désirs et les assouvir quand on est une personne handicapée, la question a trop longtemps été mise de côté, déplore Patrice Tripoteau, directeur adjoint de l'association APF France Handicap.
On a tendance à considérer que les personnes en situation de handicap seraient asexuées.
Un tabou et un manque d'accompagnement à l'origine de situations délicates.
Un certain nombre de personnes n'ont aucune relation sexuelle avec les partenaires et donc doivent gérer. Alors certains, c'est parfois les parents qui vont assurer certains gestes sexuels. Certains vont être obligés d'aller voir des prostituées. On a des témoignages dans ce sens-là, donc des situations vraiment dramatiques.
Pour répondre à cette problématique, 5 centres régionaux spécialisés ont ouvert cette année. Des lieux pour parler, trouver des infos pratiques sur les professionnels de santé ou encore les sextoys adaptés. Le dispositif sera étendu à tout le territoire d'ici la fin de l'année, assure Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge du handicap.
C'est un enjeu de santé. Il en va vraiment de la dignité des personnes à être informées, à être outillés et surtout à pouvoir être accompagnés dans leur désir d'avoir une vie intime, affective et sexuelle.
Également sur la feuille de route du gouvernement, l'accès aux soins gynécologiques pour les femmes handicapées. La question des assistants sexuels sera, elle, abordée par le comité consultatif d'éthique, dont l'avis est attendu dans les prochaines semaines.
À la page des sports, la première demi-finale de l'Euro de football, ce soir Italie-Espagne au stade de Wembley à Londres à 21h. Deux nouvelles recrues au PSG pour la saison prochaine, Sergio Ramos du Real Madrid et Achraf Hakimi de l'Inter Milan. Deux porte-drapeaux désignés pour mener la délégation française aux Jeux de Tokyo, la judoka Clarisse Agbenienou et le gymnaste Samir Haït Saïd, et la 10e étape du Tour de France. Albertville-Valence, 190 km, Tadej Pogacar est toujours en jaune et c'est une étape promise aux sprinteurs. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Vous tenez ici même la chronique de ce Tour 2021 et ce matin vous avez choisi de nous parler alimentation.
Oui, la nourriture très important pour tenir 3 semaines de tour. D'abord, commencer la journée avec un solide petit déjeuner, viennoiserie, charcuterie, céréales. Ensuite, direction le village départ, là où les départements présentent leurs spécialités locales. Ce matin à Albertville, les Dio, vous savez, les petites saucisses savoyardes, éventuellement avec du fromage fondu, à 10h du matin, ça passe très bien.
Et vous, les coureurs mangent vraiment tout ça, Jérôme?
Les coureurs? Non, là, je vous parle des suiveurs. Les coureurs sont des assistés, les menus préparés par les nutritionnistes, les cuisiniers maison, ravitaillement en course. Mais nous, on doit se débrouiller. En vérité, le matin, pendant qu'on attend les coureurs, les produits locaux nous passent sous le nez à l'heure du déjeuner, en voiture, devant le peloton et le ventre vide. Si bien qu'en début d'après-midi, la faim nous tenaille. Plein mois de juillet, dans les villages, pas une boulangerie ouverte quand vous en trouvez une. Les spectateurs vous demandent de dégager Fissa, de peur que votre voiture ne gêne le passage des coureurs, ou pire, de la caravane. Et je ne vous parle pas du soir. Vous en connaissez beaucoup des restaurants qui servent tard au Creusot, à Cluse ou à Saint-Gaudens. L'autre jour, à Châteaurouge, j'en ai trouvé un qui ferme à minuit. Miracle. Eh bien, mes collègues ingrats ont trouvé le service trop lent. Et après, on plaint les coureurs.
Ben écoutez, vous faisiez la sieste la semaine dernière à Châteauroux. Ben là, on va s'inquiéter de la façon dont vous mangez, effectivement, dont vous nourrissez. Bon appétit. Je ne sais pas si le petit-déj est déjà passé ou pas, mais sinon, allez-y, parce qu'il va falloir tenir.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et coup de vent sur le nord ce matin.
Et oui Nicolas, la tempête Cyprian a fait exploser les records de vent pour un mois de juillet. Et même si la dépression s'éloigne vers la mer du Nord, on attend encore ce matin des rafales à 100 km par heure sur le nord-ouest près de la Manche et jusqu'à 70 à l'intérieur du pays. Puis on a une zone plus ensoleillée entre les Charentes à l'Île-de-France aux Ardennes alors que le temps est instable avec des averses du sud de l'Aquitaine au massif central au Jura, à la Lorraine avec déjà des orages alors que le soleil domine sur les Alpes, à la région PACA, à la Corse. Mais le ciel est couvert par contre sur le golfe du avec quelques gouttes.
Et retour des orages cet après-midi.
Et oui, ces orages éclateront du sud de l'Aquitaine aux Pyrénées en remontant sur le massif central au nord-est à la région Rhône-Alpes. Attention, avec de forts cumuls attendus et des bourrasques de vent. Du nord-ouest au nord, eh bien, le vent va encore souffler très fort, accompagné d'averses et même des orages. Alors qu'au nord de l'Aquitaine, au centre aux Ardennes, les éclaircies seront toujours présentes et ce sera soleil. Toujours en Méditerranée, sous des températures très contrastées entre les 18 à Brest, 19 à Saint-Bonnet-le-Chapeau dans la Loire, 20 à Lille, vous aurez 22 à Paris et à Agen, 25 à Valence, comptez 30 à Marseille et 32 à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. France Inter, 8h18.